Bienvenue sur Take It Easy, le podcast de Cool IT, où nous décryptons des concepts IT, où l'informatique est déconstruite, et les invités sont cool.
Et Houston, on a un problème.
Non, Tom Seuss.
Que la force soit avec toi.
Skip a your move.
Choisis la pilule bleue.
Bienvenue sur notre premier podcast Cool IT. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de l'Internet zombie, ce que c'est, ses mythes, sa réalité. Est-ce un outil de propagande, une menace pour Internet, ou alors un outil de création d'œuvres d'art? Pour décrypter le sujet, nous sommes accompagnés aujourd'hui par toute l'équipe Cool IT, à savoir Florence, Fenn et Marie, qui vont nous parler de l'Internet zombie, de son passé, de son actualité, de son futur. Et pour débuter, du coup, je vous présente de rapidement vous présenter, du coup, pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas encore.
Alors moi, c'est Florence Alain, je suis développeuse à l'agence Cool IT.
Marie Boris, également développeuse depuis septembre.
Et Fedra Kotomalala, cofondatrice de l'agence Cool IT.
Et Aaron Moyon, en charge, du coup, de la gestion de podcast et également ingénieur au sein de l'agence Cool IT. Alors pour aujourd'hui, pour ce tout premier podcast, on lance du coup une nouvelle rubrique pour l'agence. On va aborder du coup le sujet de l'Internet zombie. Alors avant de rentrer dans le creux et dans le fond du sujet, on va déjà revenir un peu sur... son historique et concrètement qu'est-ce que c'est, en tout cas d'un point de vue définition aujourd'hui. Et après on va... c'est de voir un petit peu plus en détail ce qu'il en retourne et concrètement de savoir est-ce qu'aujourd'hui ça existe ou non. En termes de définition, l'Internet zombie, c'est ce qu'on appelle aussi la théorie de l'Internet mort. C'est une théorie du complot qui consiste à dire que la majorité du contenu trouvé sur Internet serait généré par des bots afin de manipuler les algorithmes et ainsi manipuler les populations. En résumé, si on navigue sur Internet, on partirait du principe que tout est faux. Et que si on réalise des échanges numériques avec du coup des personnes sur Internet, en fait c'est systématiquement des bots, peut-être de l'IA, mais en tout cas tout est faux. En gros, on serait sur une sorte de grand no man's land où finalement l'humain n'existe plus. Alors d'où ça vient? Parce que là, c'est vraiment la grande question sur l'Internet zombie. Finalement, c'est un sujet qui s'est pas mal renforcé sur ces dernières années. On entend de plus en plus parler de cette théorie du complot. Mais concrètement, en fait, quand est-ce que c'est apparu? En fait, les spécialistes, pour le peu qu'il en est, en réalité, pour l'instant, personne ne s'accorde réellement à savoir, et je pense que personne n'a encore mené réellement une enquête hyper approfondie, mais on citerait a priori que les premières apparitions, ça serait dans les années 2010, notamment sur le forum 4chan, où les premières théories autour de, en fait, aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, c'est faux, serait apparu du coup durant cette période sur ce forum, qui est notamment un forum assez bien connu pour tout et n'importe quoi, beaucoup de théories du complot. Il y a aussi beaucoup de sujets de fond à l'intérieur de ce forum, on y retrouve un peu de tout, et du coup le sujet autour de l'internet zombie a priori serait apparu
sur quel forum?
4chan. Qui s'écrit 4chan. Sur ces dernières années, l'internet zombie du coup a pris en ampleur, notamment après la période Covid. On sait que la période Covid a été une période très charnière où, en fait, sur beaucoup de sujets, différentes théories du complot sont renforcées, et notamment cette théorie là et en gros c'est en 2021 notamment qu'un thread a été rédigé sur Reddit par Illuminati Pirate, qui du coup évoque le fait que la Internet serait mort en 2016. En fait, c'est toute une longue étude qu'il aurait menée pour expliquer pourquoi depuis 2016, en fait, tout le contenu qu'on retrouve sur Internet n'existe plus. Et là où on aurait pu se dire, bon, ok, merci, c'est un long thread, on en a plein tous les jours. En fait, ce thread a pris beaucoup d'ampleur, avec beaucoup de partages, notamment par des personnes et des figures. Alors, c'est un sujet américain, beaucoup. Et notamment par des figures américaines très importantes. On pense à Joe Rogan, qui de nous, vous le connaissez pas forcément, en fait c'est une personnalité hyper importante, parce qu'en gros c'est le commentateur principal de l'UFC, donc du coup l'association de combat, qui en gros est le commentateur principal historique de cette ligue, grand fervent admirateur de Trump. qui a près de 800 000 souscripteurs sur abonnés pardon sur Reddit et qui notamment a véhiculé cette théorie et qui a du coup fait partie des personnes et des différentes personnalités en fait qui ont fait monter en fait cette théorie du complot. Et c'est que derrière moi du coup qu'on a eu cette théorie qui s'est pas mal renforcée, notamment en 2024 et fin 2023 et 2024 avec différents événements que vous avez peut-être même sûrement entendu parler. On a eu par exemple Jésus Crevette ce fameux Jésus Crevette qui en gros est apparu c'était en début 2024 je crois, autour de mars 2024, quelque chose comme ça. Bon, en fait sur Facebook des personnes ont commencé en fait à envahir d'images farfelues de Jésus mais qui est en mode crevette. En fait, faut imaginer c'est Jésus mais c'est une crevette, il n'y a c'est que sa tête qui est encore vraie et littéralement le reste de son corps c'est une crevette, enfin, plein de crevettes. Et c'était des images qui ont été générées par IA et qui du coup ont inondé Facebook, mais à tel point en fait que les algorithmes Facebook en gros eux valorisent du contenu qui est viral. Et c'est des images qui sont devenues virales à tel point en fait qu'on s'est retrouvé où les gens étaient. En fait, ils allaient sur leur feed et sur leur feed, il y avait plein de Jésus crevettes. Et en gros, ça arrive à un point où même Facebook a dû prendre le sujet en main en essayant du coup de couper en fait cette invasion, cette prolifération. Et en gros, l'objectif initial de ce truc-là, c'était pour vraiment montrer qu'on pouvait manipuler des algorithmes et du coup de pousser en fait de faux contenus. Et pour que les personnes puissent y accéder facilement. Derrière, on a eu d'autres événements que je dirais moins fun, parce que plus manipulatoires, notamment les sujets de tout ce qui est autour de l'influpreneur. En gros, c'est des influenceurs qui, du coup, sous le domaine de l'influence et du fait qu'ils vont véhiculer certaines idées, en fait, sont là pour générer de l'argent. Et des influpreneurs, on a par exemple le cas d'un youtubeur qui s'appelle Destiny. Alors je vous invite pas du tout à regarder ce qu'il a fait, parce que ça va lui donner de l'argent, du coup c'est tout le sujet. Par contre c'est une personne qui du coup, c'est un youtubeur, qui a en fait fait une grosse vidéo hyper sensationnelle sur le fait qu'il est rentré, je crois que c'était sur Twitter, et qui du coup il a discuté avec des personnes, et en fait il s'est rendu compte, donc selon ses propos à lui, que ces personnes en réalité étaient des zombies, en fait n'étaient pas de vrais humains mais des bots, et qu'en fait il a commencé à dire des choses, que des bots ont commencé à l'agresser en retour parce que du coup ils étaient pas d'accord avec ce qu'il disait, et qu'en fait il s'est rendu compte, selon ses propos, que ces personnes en fait n'étaient pas des vraies personnes, et il s'avère que du coup tout ce montage était faux. En gros, les personnes qu'il évoque, notamment sur Twitter, parce qu'on sait que Twitter pullule en fait de bots, et que je crois qu'on est, enfin, j'ai plus le nom en tête, mais on est sur des nombres assez importants de bots dessus aujourd'hui. On sait aujourd'hui que les personnes qu'il a évoquées en disant ça c'est des bots, ils m'ont agressé en retour sur ce que j'ai dit, vous voyez, il faut faire attention, on est attaqué de partout, etc. En fait c'était des vrais humains. Et en fait ces personnes du coup ont partagé en fait ce qu'ils ont envoyé à ce youtubeur, ont partagé le fait que ça fait un historique qui serait depuis longtemps, ils ont pris une photo d'eux en disant vous voyez on est humain, enfin on est présent, et en fait c'était véridique, c'était des humains.
Not all robots.
Not surtout genre vous êtes pas d'accord avec moi, vous êtes un bot.
C'est tout. Exactement le sujet. Son objectif initial, du coup, c'était de générer de l'argent. Et on sait, en plus, qu'en 2024, il y a des élections, notamment aux États-Unis, qui ont poussé quand même certaines personnes fervents admirateurs des théories complotistes. Et du coup, ça fait partie de ces personnes qui, du coup, en plus, poussent en fait des personnes qui, naïvement, du coup, se font un peu manipuler. Se dire, bah, vous voyez, en fait, ce qu'on vous dit est faux. Et on peut pas faire confiance. On a aussi quelques chiffres qui sont tombés en 2024, qui sont assez intéressants, et que notamment c'est toi Marie qui me les avait partagés, c'est qu'aujourd'hui on a 1 milliard 200 millions de sites internet qui sont générés, enfin, qui existent aujourd'hui. Donc on est vraiment sur cette masse. On aurait que 17% aujourd'hui de ces sites qui seraient actifs contre 83% inactifs. Et en plus de ça, on aurait 50% du contenu aujourd'hui qui serait généré sur internet qui sont produits par des bots. Selon une étude en fait qui a été réalisée par une agence de cybersécurité américaine qui s'appelle Imperva.
Attends, tu peux répéter ce que tu disais au début, c'est que du coup,
aujourd'hui,
on a 1 milliard de sites.
1 milliard en arrondissant très grossièrement.
Et que à l'intérieur, il n'y a que 17% qui est actif.
Oui. On a 17%. Alors attention, n'oublions pas que nous, quand on monte un site internet, il y a plein de moments où le site internet finalement on arrête de l'utiliser. Et du coup, en fait, il devient inactif. Et en fait, il y a plein de...
Inactif, c'est dans le genre, en fait, il n'y a plus rien, y a plus, on ne met plus rien dessus.
Oui, voire il n'y a plus personne derrière.
Ok.
Et oui, et par rapport à ça, du coup, on aurait 50% du contenu, et là, c'est un des gros sujets qu'on va aborder aujourd'hui, c'est 50% du contenu généré sur Internet sont générés par des bots. Et quand on dit contenu, on parle de commentaires, on parle d'activités sur certaines applications ou sites web qu'on peut connaître, et en gros, ce contenu qu'on lit, en fait, 50% serait généré par des bots.
Mais quand tu parles de contenu, du coup, est-ce qu'on parle de... Je suis hyper étonnée, en fait, par ces chiffres. Mais quand on parle de contenu, est-ce qu'on parle de ce qu'on lit, l'article qu'on lit, ou on parle des interactions des gens ?
Les deux.
Ah ouais.
L'interaction, c'est un contenu.
Ok.
Twitter, c'est du contenu.
Ouais, ok. Mais par exemple, genre, aller sur un blog, ça pourrait être potentiellement un truc généré ?
Ok. Là. C'est le sujet qu'on va aborder, parce que du coup... Oui et non. Enfin, je pense que ça dépend.
Ouais. Mais tout type de contenu, quoi. C'est pas juste ce qui est humain.
Ouais, tout type de contenu.
Ok.
Et donc là, on a parlé de 2024, on est en 2025. La question, c'est plutôt maintenant de l'après. Et on a un rapport qui est assez édifiant d'Europol, qui évoque que, selon ses études, d'ici 2026... Ouais, d'ici 2026, 90% du contenu web pourrait être généré par IA. Pourrait. Donc on n'est pas encore dedans. Par contre, potentiellement, 90% du contenu serait généré par IA. Donc là, aujourd'hui, on va parler de tout ça. L'objectif, c'est un petit peu de dégrossir un peu le sujet et surtout de... Enfin, là, on est un peu dans le sensationnel. On se dit, waouh, en fait, ça sert à rien d'aller plus sur Internet, finalement. À quoi ça sert ? De toute façon, 90% du contenu sera mort. Ça sert à rien. Sauf que, en réalité, c'est... Enfin, il y a des outils qui génèrent plus que d'autres, du contenu par exemple. Donc on va essayer d'aborder tous ces sujets-là pour essayer de se dire est-ce qu'on est vraiment... Enfin, est-ce que c'est catastrophique à ce point ? Ou au contraire, en fait, ça va, on devrait pouvoir quand même survivre. Parce que c'est une invasion de zombies, donc est-ce qu'on est dans l'apocalypse ? Ou finalement, est-ce que ça devrait aller ? Et donc, pour ce premier podcast, on a introduit du coup de nouvelles rubriques. Pour un peu thématiser l'organisation et nos différents sujets. Et pour la première rubrique, nous allons parler de la requête de tirage. La requête de tirage, cette rubrique, en gros, l'objectif, c'est de décrypter un sujet de fond. Et là, aujourd'hui, le sujet de fond, c'est l'Internet zombie, du coup. Menace pour Internet ou pas. Et en fait, ma première question, elle est très simple, et elle est pour vous, c'est concrètement, qu'en pensez-vous ? Par rapport à tout ce que je viens de dire, et du coup de votre avis aujourd'hui, de ce que vous connaissez de l'Internet zombie, vous, l'Internet zombie, qu'est-ce que ça vous évoque ?
N'allez plus sur Internet, voilà, n'y allez plus, ça sert à rien. Moi, je suis hyper étonnée, en fait, de tous les chiffres, parce que même si, dans tout ce qu'on a lu, on a vu que oui, l'Internet des zombies, ça n'existe pas, c'est une théorie du complot et tout ça, c'est que mine de rien, il y a quand même ce truc de contenu faux. Dans le milieu de la sociologie, on se dit que la période Covid nous a fait rentrer dans une ère qu'on appelle de post-vérité, où on s'intéresse davantage à générer du fake qu'à générer la vérité, parce qu'on se dit que en fait, la vie n'a plus de sens, donc pourquoi est-ce qu'on chercherait à créer du contenu qui en a ? Mais il y a ce truc-là où on fait exprès de désinformer, où là, il y a quand même un contenu bien humain. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est aussi le côté du contenu automatique. Mmh. Où en fait, voilà, on va générer des choses et qu'en fonction de comment est-ce qu'on continue d'utiliser les sujets, que ce soit en les créant, sans faire l'effort de les créer, ou en étant hyper passif quand on les lit ou quand on les consulte, bah, en fait, on va continuer à entretenir finalement cette armée de zombies. Après, bon, ça, c'est des chiffres qu'on a et... parce qu'on est, on est forcément en train de spéculer sur ce que ça pourrait être. Mais pour conclure ce que je suis en train de dire, parce que ce que je suis en train de dire a du sens, en fait, je vais quelque part dans ce que je suis en train de dire, c'est qu'en vrai, derrière chaque théorie du complot, il y a toujours un phénomène de société. En fait, une théorie du complot, ça sert pas, ça sort jamais de nulle part. Il y a toujours un truc. Et en fait, il y a toujours eu, autour de la technique, une espèce de mythologie du vivant. Genre, on crée un robot, est-ce qu'un jour, ce robot, il pourrait être humain ? Et en fait, finalement, je trouve que La théorie de l'internet zombie, elle est logique, parce que, en fait, le numérique, on sait pas ce que c'est, on est beaucoup à pas savoir comment ça fonctionne. Comme c'est pas palpable son fonctionnement, et ben c'est normal qu'à un moment on se dise que peut-être qu'internet n'existe pas, que peut-être que finalement il y a personne derrière, parce qu'en fait les développeurs on les voit pas, les développeuses on les voit pas, on sait pas qui c'est, et ça a l'air un peu magique, et donc on peut très vite tomber dans ce truc de ben, internet n'existe pas et tout ça. Et comme n'importe quelle théorie du complot aussi, c'est que plus on en discute, et plus en fait à un moment on peut en venir à avoir des actions qui mènent à créer l'internet zombie. En fait, il y a deux termes là-dessus. Il y a ce qu'on appelle c'est dans la sphère du complot. Il y a ce qu'on appelle un récit performatif. En fait, c'est une histoire où, à force d'en parler, on en parle tellement que ça finit par influencer notre manière de faire et de réfléchir. Parce que du coup, c'est tellement dans nos têtes qu'on ne sait plus si c'est vrai ou pas.
Ça existe quelque part.
C'est exactement ça. Mm. Et donc du coup, c'est un récit performatif, c'est un peu ça. Donc, est-ce que l'internet zombie, c'est peut-être en train de devenir ça ? On sait que c'est faux, mais on se pose tellement la question de la véracité d'internet que peut-être que quelque part, on développe des réflexes autour de ça. Et après, il y a la notion de récit autoréalisateur. C'est qu'au final, il y avait une base de faux, et l'IA arrive... Mm. Finalement l'IA c'est un petit peu le créateur des zombies, donc à force de rigoler d'un truc, un peu comme dans les Simpsons, tu vois, genre à force de se marrer d'un truc, et ben en fait paf, on y arrive quoi, parce que quelqu'un s'est dit ah bah attends si j'essayais, et finalement c'est en train de se passer quoi.
Après comme toute théorie du complot, enfin est-ce qu'on a des cas d'usage qui aujourd'hui nous prouvent que comme toute théorie du complot on arrive sur cette deuxième partie, parce que la première qui est du coup de dire que les... En fait, on mélange réalité finalement et virtuel ici. Forcément, au bout d'un moment, on se dit mais attends, en fait, on est dedans, c'est pas possible. On arrive à forcer notre cerveau à se dire que, en fait, tous ces cas-là, ils existent, donc c'est vrai. Mais là, la partie où on se dit en fait, ça arrive vraiment et on est dedans. Est-ce qu'il y a des théories des complots qui finalement sont passées de théorie, mais en tant que telle, et en fait, cette théorie s'est réellement réalisée ? Est-ce qu'on a des exemples en tête ?
J'ai un exemple un peu sur la série Black Mirror.
Okay.
Qui est considérée comme une série performative et autoréalisatrice sur plein de ses aspects. Alors je l'ai jamais regardée, hein, mais j'adore lire ce que les gens disent de cette série, mais qui d'ailleurs tourne beaucoup autour de nos usages numériques. Et au final, il y a plein de choses. Par exemple, je pense à cette série sur il y a une série sur la notation sociale.
Ouais. Mmh. Un épisode.
Ouais, il y a un épisode là-dessus. Et quand cette série elle est sortie. On passe par plein d'étapes, il y a cette espèce de sidération où on se dit c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas arriver à ce système de noter des gens par rapport à ce qu'ils font dans la vie et qu'après cette note va les priver de quelque chose. Puis quelques années plus tard, en fait, au final, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Chine ? On sait que ça existe en fait.
Ouais.
On a un système de notation sociale qui est basé sur tout ce qu'on peut laisser comme trace administrative, mais pas que, sur une activité numérique. Et au final, c'est pas que. Black Mirror a fait que ça s'est lancé. Mais c'est juste que des sujets comme celui-ci, on en parle tellement que parfois des personnes mal avisées pourraient se dire mais pourquoi pas ? Pourquoi j'essaierais pas ? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Et au final, de quelque chose qui peut paraître un peu fictionnel et un peu délirant, plus tard on se dit mais pourquoi je m'en inspirerais pas ? Sur d'autres exemples comme ça aussi, il ne faut pas oublier que la scientologie, qui est une religion aujourd'hui, elle est basée sur un roman de science-fiction. Et on n'est pas loin de ce genre de truc aussi. C'est qu'on a un gars, il a adoré, j'ai oublié son nom, mais un roman de science-fiction, et il s'est dit qu'il pourrait se faire de l'argent en créant une croyance autour de ce truc. Et aujourd'hui, en fait, c'est une église, et ça a des croyants un peu partout, à travers le monde. Et c'est basé d'un truc fake, et on s'est dit, vas-y, on va voir jusqu'où on va avec ce fake, et on va embarquer des gens dedans. Et au final, ouais, on a plein d'exemples là-dessus. Les anti-vaccins, qui ont des choses très très plausibles sur... pourquoi ne pas prendre des vaccins, etc., les effets que ça pourrait faire. Et après, plus tard, en fait, il y a quand même un groupe qui suit. Après, peut-être que l'issue est différente de ce que le complotiste a pu dire avant, mais on en vient finalement à quand même réaliser une partie de ce qu'il raconte.
Donc en gros, ouais, on part de cette théorie qui est très forte, enfin, en termes d'objectifs. Et après, en fait, il y a des briques de cette théorie, finalement, qui, elles, s'appliquent réellement dans la vie. Tu parlais de la notation, enfin, je trouve que c'est le meilleur exemple. Et que du coup ouais, on arrive à sortir finalement de ce côté où c'est la théorie en fait elle est hyper pessimiste, parce que généralement en plus une théorie du complot elle est rarement optimiste, hein, enfin j'en connais pas beaucoup, Et finalement, quand on en sort après quelques éléments de l'intérieur, bah, on se rend compte quand même que tout n'est pas faux à l'intérieur. C'est un peu ça que tu es en train de dire.
Bah, ces rouages sont pas faux, ça évoque plein de trucs. En fait, l'internet zombie, qu'est-ce que ça évoque? En vrai, le fond, en fait, d'un chaque complot, en fait, on essaie d'expliquer quelque chose qui nous échappe. Et ça veut toujours dire quelque chose. Genre la théorie des reptiliens, là, comme ça peut être un peu abusé de dire que derrière chaque personnalité incroyable, en fait, se cache un reptile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que, en fait, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a des humains avec des incroyables capacités, et donc ils sont forcément pas humains. Et pour moi, l'internet zombie, c'est ça que ça évoque pour ceux qui développent ce complot. C'est que, en fait, moi je comprends pas comment internet fonctionne, et du coup, je vais me ranger derrière ce complot-là, ou je vais le créer, parce que comme j'arrive pas à l'expliquer, que j'ai pas les compétences pour l'expliquer, je vais inventer mon explication. Et après, bah, ouais, y a des gens qui suivent ou qui suivent pas. Il y a les infopreneurs dont tu parlais. Alors, pour préciser quand même la notion d'infopreneur, c'est qu'il y a l'infopreneur en général,
oui.
Donc qui utilise son influence pour développer une opinion. Mais ce qui est important, parce qu'il faut pas, on peut pas mettre tous les infopreneurs dans le même panier. Mais il y a les infopreneurs du complot. Et du coup, ça c'est renforcé par Internet, par les réseaux sociaux, etc. C'est qu'aujourd'hui, c'est tout à fait plausible d'inventer une opinion et de la diffuser, et en fait, si on a l'argent, parce qu'il faut se dire que c'est pas n'importe qui arrive à développer un complot, mais si on a les fonds pour développer une opinion, ben en fait, on peut rallier des gens autour, vendre du merch, faire des conférences et tout. Après, on parle beaucoup tous les deux, mais je sais pas si peut-être que vous avez des choses aussi à rajouter.
Sur ce que tu dis de pourquoi aujourd'hui l'internet zombie revient un petit peu au centre du débat. Je pense que c'est aussi parce que c'est très opaque, justement, vu que c'est pas quelque chose de palpable, Internet, le numérique. Donc on peut pas démonter ce débat-là ou ce complot aussi facilement. Et c'est pour ça que ça m'étonne pas non plus qu'il y ait autant de chiffres pour l'Internet mort, entre guillemets, parce que ça se voit pas. C'est pas des villes qu'on a construites et qu'on abandonne et ça y est, c'est mort, on peut le voir, on peut pas le vérifier vraiment. Personne n'est là pour vraiment le vérifier, et du coup, je pense que l'internet zombie surfe sur ce mystère un peu qu'il y a autour du numérique, et vu qu'on le voit pas, qu'on le sait pas, ben, y a tout et n'importe quoi qui peuvent être dit dessus, et pour faire croire des gens, etc. Et après, il y a le côté autoréalisateur, parce que le principe, c'est des petits algorithmes. Le code même est basé là-dessus, et donc on peut s'imaginer, extrapoler des histoires qui partent de ça, des films qu'il y a dans l'espace où c'est une IA qui prend le contrôle du vaisseau, etc. En fait, au fil du temps, l'IA s'est basée là-dessus, s'est développée aussi à une vitesse telle que personne ne peut vraiment... capter ça et l'expliquer et que ce soit vraiment compris par tout le monde. Et pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement un sujet d'actualité, quoi. C'est que ça a été hyper vite et c'est pas visible. Donc en fait, on peut dire tout et n'importe quoi et les gens vont le croire parce qu'on a toujours besoin de croire quelque chose. Donc, je pense à ça.
Ouais, moi, je trouve que l'internet zombie, parce que je l'ai peut-être pris différemment, mais pour moi l'internet zombie c'est visible entre guillemets, c'est un peu justement c'est Jésus crevette qui pop sur tous nos fils Facebook et qu'on n'a pas demandé, et puis tous ces trucs qui sont générés par IA, c'est plus sous cet angle là que je le vois. C'est on parle d'internet zombie, mais en fait, quelque part, c'est pas zombie, puisque ces trucs-là ont été créés, ça a été généré par l'IA, mais ça a été demandé par un humain, en fait. Donc il n'y a pas... en soi, il n'y a pas vraiment de zombie, quoi. Il y a peut-être une zombification du web, quand même, parce que, du coup, il y a énormément de contenu qui sort à rien, ou du contenu généré, mais c'est pas... c'est pas zombie, c'est pas les IA qui sont arrivés et qu'on fait « Allez, on va mettre tout ça sur Internet, on va leur bourrer le crâne avec nos bêtises et puis on va les transformer. » Donc, c'est... Les IA, en fait, elles ont besoin, dans leur fonctionnement, d'instructions pour faire des choses. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'IA qui va zombifier le web, quoi. C'est toujours à l'initiative d'un humain.
Et du coup, je vais rebondir parce que vous avez dit deux choses qui sont hyper intéressantes et je trouve qu'elles vont vachement bien ensemble. C'est toi, tu viens d'évoquer, Florence, du coup, le fait de qu'aujourd'hui, en fait, de l'IA, donc là, on rentre vraiment dans le sujet, le cœur du sujet quasiment plus de ce podcast, mais que l'IA génère de plus en plus de contenu sur lequel on va avoir de moins en moins la main parce qu'en fait, elles vont devenir de plus en plus autonomes parce qu'elles sont programmées pour générer du contenu. Et toi, de ton point de vue, c'est pas des zombies parce qu'en effet, en fait, c'est du contenu à générer parce que, pour rappel, zombie, il est mort. Enfin, c'est un mort. Enfin, il est pas censé être actif.
Ce que tu dis, vivant, quoi. Mais mort.
Ouais. Et toi, t'as fait une analogie, je trouve, hyper intéressante sur le fait que, en fait, de ton point de vue, Marie, tu dis que c'est pas palpable parce que aujourd'hui, en gros, quand t'as une ville qui se construit et qu'elle a abandonné, direct, on sait qu'elle est morte. Enfin, c'est palpable, on le voit. Et à la différence de ce qu'on voit sur Internet, en fait, c'est toujours un peu vivant et que tout va extrêmement vite. T'as vachement insisté sur le fait que la question de la vitesse, c'est que l'IA s'est apparu en quelques années. Enfin, là, je dirais les outils IA sont apparus en quelques années parce que la notion même d'IA, ça existe depuis 50 ans. Et par rapport à ça, du coup, moi, quand j'entends ces deux choses, je me dis, mais en fait, est-ce que finalement, on n'est pas juste en train de préparer le terrain pour les zombies? C'est-à-dire que, en fait, tout va hyper vite. On a de l'IA qui va s'amuser à générer plein de contenu, mais comme ça va hyper vite, en fait, il va le générer aussi vite qu'on va l'oublier. Donc si on l'oublie, à un moment donné, en fait, c'est du contenu mort qui va se retrouver sur Internet, qui va être présent. Et finalement, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que finalement, on n'est pas dedans, mais par contre, ces outils-là vont, en fait, être la source de ce contenu qui va pulluler à un moment donné sur Internet, qu'on va voir errer un peu, dans un sens, comme un zombie, mais qui du coup n'ont plus d'acteurs derrière, ils sont un peu autonomes, et ils font un peu leur...
Pour en revenir à ce que dit Marie, en fait, on est déjà dedans, parce que c'est la base même d'Internet. Et pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, ça va très très vite. En vrai, j'ai plein de notions dans la tête, mais c'est déjà de se dire, c'est quoi un zombie, concrètement? Parce que dans la science-fiction, un zombie, c'est un humain qui était mort, et il sort de sa tombe, il est ressorti. Et après, il y a une autre catégorie de zombies, il y a les infectés, où là, c'est une création complètement humaine. Et moi, je trouve que ça ressemble un peu à ton zombie à toi. Ton zombie, c'est l'infecté, c'est celui de Resident Evil. Il y a un virus qui est parti quelque part, on a perdu le contrôle de ce virus.
C'est celui de Danny Boyle.
Mais oui, c'est ça. On a perdu le contrôle de ce virus, et en fait, il est là, il se propage, et il avance au fur et à mesure. Et après, il y a le zombie un peu traditionnel, donc qui a vécu et qui est mort, mais qui, en fait, finalement, comme sur Internet, tout disparaît jamais vraiment, il est toujours un peu là. Et la base d'Internet, c'est un peu ça, parce que comme ça va hyper vite, en fait, c'est facile de créer un projet, puis de le ressortir. Ou alors d'arrêter de l'activer. Y a des sites hyper intéressants là-dessus, qui s'appellent, c'est les cimetières du dead Internet. En fait, c'est des gens qui recensent ce que Apple, Google et Microsoft, c'est tous les projets depuis que ça existe qu'ils ont créé et qu'ils ont arrêté. Et il y en a énormément. Et dans certains de ces projets, en fait, il y a des trucs, ils sont toujours en ligne, mais on les utilise pas. Et je me dis peut-être que c'est un peu ça aussi. Hein. Enfin, il y a déjà des zombies qui sont là. La Blue Startup a fait qu'on passe notre temps à créer des projets qu'on tue dans les mois, mais on les désactive pas. En fait, ils sont toujours là. Et en plus, on a vraiment cette notion, on appelle vraiment ça un cimetière de projets. Genre les trucs qu'on lance et après qu'on laisse. Il n'y a pas que le côté malveillant où on fait exprès. Et là, pour moi, on est plus dans l'infecté, du coup. Celui qu'on fait exprès de sortir et qui est horrible et qui divulgue n'importe quoi ou qui est absurde, comme le Jésus crevette. C'est celui de nous, création purement humaine. On utilise l'algo pour le diffuser partout et troller des gens, en fait. Et après, il y a le zombie... qui erre comme ça dans Internet parce qu'en fait on l'a pas débranché, quoi.
Mais celui-ci, du coup, il est particulièrement inoffensif.
Mais il est dans Internet. Bah, en fait, moi, c'est une question que je voulais poser.
Volumineux, quoi.
Ouais, c'est une question que je voulais te poser parce que peut-être que vous savez aussi, parce que vous êtes quand même beaucoup plus calé en tant que développeur. Mais c'est quoi l'impact d'un projet mort en ligne? Ça fait quoi, en fait, j'ai créé un projet et je l'abandonne?
Ça consomme juste de l'énergie, quoi. Enfin, c'est stocké. Ça prend de la place. Ça prend de la place, effectivement. Hein.
Mais du coup, c'est pas nocif.
Personne ne l'utilise, en fait. Alors,
Si on reste dans la j'irais dans la logique en plus zombie, nécromancie, si on va un peu plus loin.
Dis-moi que t'es geek sans dire que t'es geek. Vous avez vu son t-shirt Végéta ou pas?
Ouais. J'ai sorti Végéta pour aujourd'hui, je me suis dit c'est la première, il faut que Végéta sorte. Végéta qui a été validé par des videurs de boîte de nuit, un paquet de fois, sachez-le. Donc si un jour vous avez du mal à rentrer en boîte de nuit, vous portez un t-shirt Végéta, vous rentrez gratuitement dans une boîte de nuit. Il vient même vous chercher dans la rue. Ça m'est, c'est arrivé, c'est déjà arrivé. Histoire vraie, ça m'est arrivé, je sais pas ce qui se passait, mais c'était super. Bref. En fait, si on pousse un peu du coup le concept de zombie et tout ça, et pour répondre à ta question, en effet, donc, Marie, t'as raison. Derrière le projet mort, si le projet est toujours accessible, potentiellement il tourne toujours quelque part. En fait, techniquement parlant, il consomme de l'énergie. Mais de l'énergie pour rien, du coup, ça a un coût en termes énergétiques. Ça a un coût en plus qui, sur le coup, en fonction des entreprises, bon, elles s'en foutent. Mais ça a un coût en termes monétaires, parce que du coup, il faut payer les serveurs, il faut payer ce qui tourne derrière. Par contre, se pose quand même la question derrière de bah, s'il est toujours disponible, accessible, techniquement parlant, n'importe qui, du coup, peut toujours reprendre ce projet, peut-être y accéder, et après le réutiliser à sa sauce. Que ça soit pour des projets bienveillants comme le contraire. Donc en fait, ça dépend un peu des projets, de ce qui se retrouve derrière, quoi. D'où le fait que je parle de nécromancie, parce que la nécromancie, c'est le concept de ramener des vivants, du coup, enfin des morts à la vie. Et finalement, là, on arrive un peu sur ce concept-là de.
Bah, on a un cimetière disponible et le risque, bah, y a l'impact écologique, forcément. Mais qu'après, en fait, finalement, il y a un risque de cybersécurité alors, de laisser des sites morts comme ça.
Bah, c'est vrai que tu peux avoir un risque de cybersécurité. On peut se dire que de temps en temps, quand c'est des bons projets, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons projets aussi qui voient pas le bout, ça peut être repris par des personnes qui se disent bah, moi j'ai envie de continuer ce projet et en fait je vais le déterrer. Donc ça, c'est super cool. Et on se dit finalement, bah,
gentils zombies.
Des gentils zombies. Finalement, il y a quand même des zombies, ils sont pas méchants. Et après, il y a l'autre cas aussi où bah, on a beaucoup de situations où on parlait de virus tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, il y a des virus qui puent. Enfin, les virus pullulent sur la planète. Et il y a un virus informatique. Il y en a certains, en fait, ils sont morts dans le sens où plus personne ne les utilise. Par contre, d'autres peuvent venir les récupérer pour après les améliorer et après les renvoyer.
Est-ce que c'est ce genre de projet abandonné qui est accessible sur le web? Faut quand même qu'il soit hébergé. Donc faut quand même que le nom de domaine soit re-souscrit et du coup ça voudrait dire que c'est des gens qui les entretiennent un peu, que ça vivote quand même un petit peu. Mais c'est vrai que si t'as de la donnée dessus, en soi, si tu le laisses en ligne et que tu ne l'actualises pas, que tu ne fais pas de mise à jour, ben, quelqu'un de mal intentionné peut toujours... Enfin, a toujours accès à la porte d'entrée pour tes données et tout.
C'est ça. Parce que n'oublions, enfin, tu parlais de porte d'entrée, mais du coup, c'est encore un sujet de cybersécurité. C'est que il y a des technos qui existent aujourd'hui avec des failles de sécurité. Des personnes, du coup, développent des outils pour du coup, exploiter cette vulnérabilité. Et on peut se dire très bien que, bah, en fait, les gens qui ont exploité cette faille de sécurité, demain, en fait, trouvent une faille qui est un peu similaire et en fait se disent attends.
En plus, c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis parce que ça venait pas d'un logiciel open source abandonné justement.
Si.
Oui, bah c'est un peu ça du coup.
Il restait.
Là, on a un peu un exemple.
En fait, il restait, je crois, c'était. Alors, officiellement, c'était un développeur, peut-être qu'il était aidé, mais en tout cas, c'était juste un petit gros d'individus qui était non payé et qui le faisait gracieusement et qui à un moment donné, on a eu un peu marre de se dire mais en fait, on te demande quelques fonds quand même pour nous aider, c'est un gros sujet, c'était une bibliothèque JavaScript qui était utilisée par plein d'autres bibliothèques. Parce que n'oubliez pas, quand vous installez une bibliothèque, généralement, elle ne vient pas toute seule. Elle a d'autres outils, d'ailleurs, qui viennent avec. C'est pour ça qu'il faut choisir avec parcimonie ce qu'on utilise. Et par rapport à ça, en fait, ces personnes-là ont dit, j'en ai marre, on va juste faire un peu de maintenance, mais par contre, vous voulez pas nous aider, alors que toutes les grosses boîtes, et on parle des grosses boîtes du CAC 40, on parle des plus grosses entreprises de la tech américaine, etc., en fait, vous voulez pas nous aider, bah, au bout d'un moment, on va laisser de côté. Et donc, en fait, c'est quasiment, en fait, c'est vrai que c'est un bon cas d'exemple.
C'est pas un zombie, du coup.
C'est pas un zombie.
Parce qu'il y avait quelqu'un qui le maintenait en vie. Ouais.
Il était en ligne.
Ouais. Et utilisé massivement.
Il était plus mis à jour.
Ouais.
le nombre de situations, enfin on a plein de cas d'exemple, je pense dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, où on utilise des outils qui aujourd'hui ne sont plus à jour depuis un paquet de temps.
Mais au-delà d'être à jour, c'est des gens qui sont abandonnés. Ouais, c'est des gens qui ont complètement abandonné le fait de mettre à jour.
Et puis t'as besoin, en fait, parce qu'on parle de mise à jour et tout, mais t'as besoin de mettre à jour pour, en fait, tous les jours, on va dire, le côté obscur de la force trouve de nouveaux moyens pour, pour craquer et réussir à rentrer et voler des données et compagnie. Et en fait, le fait de mettre à jour te permet de patcher, en fait, toutes ces nouvelles trouvailles qu'on arrive à... Bah, du coup, on comprend comment ça marche. On fait le patch pour endiguer le système et puis on publie la mise à jour de la techno. Les gens qui mettent pas à jour, bah, ils sont pas protégés contre les dernières failles de sécurité qui ont été trouvées. Et du coup, ce système Forge.js là,
Log4j.js,
c'était pour se loguer, pour s'authentifier, je sais plus.
J'ai plus les éléments.
Enfin bref, ce truc qui était...
C'était un petit moment.
Franchement, je sais plus exactement ce qu'il fait, mais c'était un composant de base pour la sécurité des applis qui n'a pas été mis à jour, donc qui était sensible aux failles et pas seulement les dernières, puisque ça faisait un moment qu'il n'était pas mis à jour. Et en fait, les applications qui l'utilisaient n'ont pas changé de solution pour une solution qui était mise à jour et qui était protégée contre les dernières failles. Et du coup, ils ont accumulé les possibilités de failles énormes. Et donc, autant de portes d'entrée, en fait. Mais du coup, l'importance de mettre à jour et puis bah, le pourquoi, quand tu mets pas à jour, ça t'expose à des risques.
Et d'autant plus que ça me permet d'enchaîner sur un chiffre que j'ai vu. C'est l'Arcos Lab, un laboratoire qui a fait une étude au mois de janvier 2023 jusqu'à septembre 2023 sur des milliards de sessions. Et donc, ils ont sorti ce chiffre de 73% de leur étude est composé de bots et ferme-à-clic dans le sens où c'est un trafic sur le web et des applications considérées comme malveillants. Donc si ça fait partie de 73%, c'est énorme, et donc il faut à tout prix protéger tout l'existant ou le semi-zombie un peu de ça, parce que c'est en train d'exploser. En fait, ils décrivent trois catégories de bots qui existent. Les bots classiques, donc des scripts qui effectuent plein de tâches automatiques. La deuxième catégorie, c'est les bots dits intelligents, qui sont plus avancés, qui peuvent imiter le comportement humain en cliquant, en scrollant, etc. Et quand ils sont bloqués, ceux-là, ils se tournent vers la troisième catégorie, qui fait partie des fermes de fraude humaine, où là, du coup, c'est le plus puissant, entre guillemets, parce que c'est des groupes de personnes qui sont embauchées et qui, manuellement, vont... aller plus loin dans ces attaques-là et qui mènent évidemment des activités frauduleuses. Et en fait, cette catégorie-là de fraude humaine a augmenté de 50% entre le premier et le deuxième semestre qui était étudié. Et la deuxième catégorie, donc les bots intelligents un peu automatisés, quoi, et en hausse de 291% au premier semestre de l'année 2023 et devient de plus en plus sophistiqué. Donc il y a des interactions beaucoup plus complexes qui prennent en compte le contexte dans lequel il est, etc. Et qui peut contourner de plus en plus de mesures de sécurité, de mails, etc. Et pour en finir avec les chiffres, les attaques de bots ont donc augmenté de 167% au cours du premier semestre 2023 sur toutes ces milliards de sessions, avec entre autres ils mettent en garde contre l'IA générative et aussi le cybercrime as a service, CAAS, en gros ils appellent ça comme ça. Ça transforme en gros l'économie du cybercrime.
qui jusque-là était un peu, enfin, on a l'image du hacker avec sa capuche noire en train de faire un truc dans son coin. En fait, aujourd'hui, il y a des solutions professionnelles qui existent.
C'est un biz.
Et qui sont mises, ouais, et qui sont mises à disposition. Donc ça devient beaucoup moins cher d'attaquer et d'utiliser des robots, etc. Et donc, c'est pas que des amateurs du cybercrime qui le font, maintenant c'est des professionnels, et ça a augmenté de manière considérable. Là, c'est en 2023, mais qu'en est-il aujourd'hui avec le développement si puissant des IA, etc. Donc, en fait, c'est énorme la place que ça prend, je trouve, et moi, c'est ce chiffre-là qui m'a un peu choquée. 73% du web qui est malveillant, ça va devenir quoi.
Non, ça me fait penser à ce que tu disais, du coup, si on se raccroche à notre sujet, c'est qu'au final, y a la théorie du complot autour des fonds contenus, etc. Il y a des faux contenus, ok, mais finalement, ces faux contenus, quand j'entends ce que tu dis, quoi qu'il arrive, en fait, il y a toujours des humains derrière. En fait, c'est toujours machiné par quelque chose. Mmh. Donc, effectivement, si on doit parler de récits autoréalisateurs, on exploite la théorie du complot de l'Internet faux pour, quelque part, je pense, cacher les véritables intentions des cyberattaquants au grand public. Donc, je dis, le grand public, il est dans son idée d'Internet fake et que, du coup, j'ai du mal à déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux. Tout ça pour après planquer de véritables mauvaises intentions qui est en fait on zombifie le web pour attaquer des gens. Ce que je me dis, c'est plutôt ça en fait, finalement, c'est qu'on a créé, enfin, on parle beaucoup de cybersécurité, mais finalement, quelque part, si on en revient à ce qu'on se disait avant, un complot ça a toujours un objectif, ça cache toujours quelque chose. Est-ce que finalement on nous endort pour planquer ce qui se passe vraiment et ce qu'on fait vraiment, et non pas qu'avec des IA mais avec l'algo en fait. Finalement, c'est pas l'IA le truc, parce que l'IA, c'est que de l'algorithme.
Ouais.
En fait, c'est juste que l'algorithme, c'est plutôt les algorithmes, ce truc un peu pas palpable, on sait pas trop ce que c'est, avec de très mauvaises intentions, on arrive à intégrer des choses qu'on déploie beaucoup plus rapidement maintenant qu'au début du web.
Donc c'est plus lié à la massification du faux contenu.
Ouais, je pense.
Qui donne cette impression qu'on... Et du coup, on arrive sur de la manipulation de masse.
C'est ça.
On a l'impression que la plupart du contenu est faux.
Ouais.
Parce qu'on peut pas lui faire confiance. En plus, en dehors de ça, il y a plein de projets qui tombent à l'eau en permanence. Donc on se dit, vous voyez bien qu'il y a plein de trucs qui n'existent pas. Donc finalement, en fait, toute cette théorie, elle tourne plutôt autour de ça. Et qu'elle se renforce parce que du coup, là, massivement, il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui arrive sur les différents réseaux. Mais qui du coup sont générés via des, comme tu le dis en fait, des bots. Et en plus, comme théorie du complot est rarement, comme on dit, positive, comme on a 73% du contenu qui est plutôt faux, que c'est des hommes, enfin qu'on...
Ça n'est pas faux, malveillant.
Malveillant.
Faux,
oui, malveillant.
Malveillant.
Et que derrière, en plus, enfin, on sait qu'il y a énormément de failles de sécurité, etc. Et la faille humaine, du coup, elle est, enfin, comme tout humain, on est manipulable sur pas mal de sujets. En fait, c'est aller là à la ligne, quoi. De se dire que le zombie, non, mais par contre, des gens derrière ce trait de zombie, en fait, massivement, essayent de manipuler.
Ouais.
Mais en automatisant pas mal.
Ouais.
On voit aussi qu'ils utilisent énormément de robots, Fermapod, etc., qui prennent de plus en plus de place, parce que c'est ça qui avait le plus évolué.
Donc. Ouais. Et en plus, il y a la malveillance dans l'objectif de voler des données, dans le but de compromettre des systèmes. Mais il y a aussi, vu qu'on parle de complot, il y a aussi l'aspect désinformation. Et là aussi, on est dans un autre genre de déstabilisation. C'est qu'on peut massifier la création d'informations fausses pour déstabiliser une opinion. Je pense qu'on a quand même le plus gros exemple de ça, Cambridge Analytica, qui s'est passé il y a quelques années. C'est bien avant, ça a bien précédé les IA génératives. Et c'est pour ça que je voulais recentrer sur l'algorithme. C'est comment est-ce que, finalement, notre densité d'informations, notre incapacité de comprendre vraiment comment fonctionne un contenu, comment il se génère, et ben en fait, on peut en profiter pour planter des petites graines comme ça, et qui ensuite deviennent virales et sont repris par des influenceurs, plus ou moins bienveillants, plus ou moins renseignés. Et nous, on a toute cette info, et parfois, on n'a pas toujours la capacité de faire le tri, On n'a pas la capacité de faire le tri sur bon bot, mauvais bot, mais on n'a pas la capacité de faire le tri non plus sur vrai faux. Et ça continue de se densifier parce que je pense que ouais, parfois on peut être un peu démuni. Après c'est un peu bizarre de dire ça parce que dans la mesure où nous on est quand même, on bosse dans la tech et tout, mais c'est vrai que ouais, je me dis c'est ça en fait, c'est l'algo qui permet de densifier de mauvaises actions, mais qui sont toujours hyper humaines.
Oui, finalement c'est, on a l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus qui finalement manipule un peu les ficelles, mais du coup on arrive encore toujours plus dans l'intérieur du complot. Mais je trouve que ça fait une bonne conclusion pour cette première rubrique. J'aurais juste une petite dernière question quand même avant de passer à la suite, mais par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que quand même on peut créer de gentils zombies ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure.
Mais ouais, j'ai un exemple.
Mais est-ce qu'on a des exemples de gentils zombies ? C'était des personnes qui sont là, il y a 73%, mais du coup, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas 27% qui sont là pour nous faire du bien ?
Là, j'ai un exemple de bon zombie qui nous vient de notre chargé de com caché derrière la régie, Jeudi.
C'est comme celle qu'on aura un super podcast.
Oui, il faut que je le retrouve. Au secours. Oui, HTML, merci beaucoup. Ça s'appelle HTML. Je voudrais juste arriver à retrouver ce qu'il faut exactement avec. Si, 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 je l'ai pas noté. C'est pas grave. Ça s'appelle.
De mémoire.
Oui, c'est ça. C'est, l'organisation s'appelle HTML. C'est canadien, si je dis pas de conneries, ouais. C'est un groupe de professionnels de la tech qui se sont rendus compte que quand on écrit de manière inclusive mais qu'on l'écrit pas correctement, ça génère des liens morts. Et elles se sont dit que ce serait intéressant de réexploiter ces liens morts pour faire beaucoup plus de sensibilisation à la place que les femmes occupent dans la tech. Et donc ce qu'elles ont fait, c'est que tous ces liens morts générés, tu sais, quand vous mettez un petit point là, et qu'on fait point ES, ben en fait en vrai c'est une vraie adresse, donc ça redirigeait vers quelque chose. Et donc elles ont racheté, en fait elles d'ailleurs c'est pas qu'elles ont racheté, c'est qu'elles continuent, elles rachètent tous les sites morts générés par de l'écriture inclusive, et derrière chacun de ces sites, elles font un mini-site qui présente une professionnelle de la tech et ce qu'elle a apporté. Et du coup, c'est vrai que moi je l'ai mis dans la catégorie gentil zombie, zombie qui t'éduque. Voilà, c'est celui avec qui on parle, c'est ton pote, tu vois. Et donc c'est cette organisation-là, se sont dit, en fait finalement, il y a quelque chose parfois de bon derrière les accidents qu'on génère sur le web, quoi.
Mais c'est la preuve que
oui,
on peut faire
c'est
du
possible.
Bien.
Mais il y a beaucoup de belles choses qu'on peut faire. Oui. Parce que même quand on parle de manipulation de masse, on peut aussi, enfin, pas manipuler la masse, parce que c'est pas beau de le dire comme ça, mais on peut quand même aussi utiliser l'algorithme pour immiscer de bonnes idées. C'est possible. Après, c'est que tous les exemples sont pas faramineux. Mais...
Et je me dis que ça ferait même un excellent sujet de podcast. parce que là, on pourrait en parler encore pendant des heures sur...
Parce qu'on fait de bien avec le web.
Oui, et comment, du coup, en fait, éduquer le web pour... parce qu'en fait, c'est des algos. Donc, si des personnes arrivent à faire du mal avec, techniquement, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire le bien avec.
Ouais.
Les deux fonctionnent. Donc, ça sera peut-être un sujet qu'on pourra aborder dans un autre temps. Je vous propose de passer à la rubrique suivante. Qu'on a appelé le Game Over. Cette rubrique, on va débunker des idées reçues, alors en l'occurrence là, une seule idée reçue, qui est en fait est une idée qui est apparue en même temps que les théories de l'internet zombie. En gros, il s'est passé un événement en mars 2024. C'était pas Jésus Crevette finalement, en mars 2024, c'était Google, qui disait que, en gros, Google, en mars 2024, a dû justifier la qualité de leurs résultats de recherche, donc de leur moteur de recherche, et indiquer que, du coup, ils devaient améliorer leur algo. Donc là, vous me dites, bon, ça va, Google, de toute façon, ils justifient chaque mois, il y a une mise à jour de leur algo, et puis à chaque fois, ils justifient pourquoi est-ce que les résultats sont pas les mêmes. Sauf que là, en fait, ils ont dû se justifier, parce qu'il y a eu un précédent sur les mois qui sont arrivés juste avant, où en fait la communauté et nombre en fait d'internautes et de professionnels du coup indiquaient qu'en gros les résultats de Google étaient faussés, menés sur des liens morts, et du coup toute une théorie s'est développée là-dessus en disant que les résultats de recherche du coup de Google étaient fausses. Et en fait c'est un truc qui s'est vraiment développé, en l'occurrence qui n'était pas avéré. Et Google, sur le coup, bah, ils ont besoin de faire de l'argent, hein, n'oublions pas. Partager un lien mort, ça ne va pas leur apporter de l'argent, à part s'ils sont payés par le gouvernement ou l'entreprise qui partage ce lien mort. Mais autrement, ça ne va rien leur apporter. Et donc, il y a une théorie qui dit qu'aujourd'hui, 50% des résultats de recherche sur Google sont fausses. Vous faites des recherches, en fait, c'est faux. Du coup, est-ce que c'est vrai que c'est faux?
Bah, de toute façon, tu l'as dit toi-même, t'es en train de débunker un truc, donc j'imagine que c'est faux.
Sait-on jamais. D'un point de vue technique, comment vous expliquerez, enfin, comment est-ce qu'on peut, du coup, pour des personnes qui écoutent, d'un point de vue juste technique, avec quelques mots simples, comment est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi est-ce que, en fait, cette 50% des résultats de recherche, en fait, sont fausses?
Bah après, moi, genre, je pense que ce que je comprends, c'est qu'on parle pas de faux, on parle de lien mort.
Oui.
C'est parce que quand on dit faux, ça veut dire que le contenu est faux. Là, faut quand même, c'est bien de préciser. Alors, on parle pas de contenu faux.
Il y avait ça et aussi tout ce qui est site miroir, etc.
Oui, mais ce que le chiffre, enfin, ce que je me souviens de ce que tu parlais, c'était plutôt de se dire, on n'est pas sur le fait que tout est faux. Oui. C'est de dire que Google n'existe pas. Enfin, en fait, que les résultats de Google n'existent pas. C'est plutôt ça qui, enfin, histoire d'être un peu clair là-dessus. Et après, c'est probable. Enfin, en fait, c'est probable dans la mesure où un moteur de recherche ne modère pas le site. Après, c'est vrai qu'ils nous le disent, ils nous alertent. Attention, ce lien n'est plus indexé. Attention. Enfin, on a des alertes dessus. Mais après, le truc, c'est que derrière, côté concepteur, on peut ignorer ces alertes. En fait, on peut ne pas suivre les recommandations de Google et pas entretenir le site. Après, en soi, à la fin, Google, il le supprime, j'imagine.
Ben. Google, il met des règles quand même hyper strictes pour que tu arrives dans ses recherches. Donc c'est, ça fonctionne avec le SEO, il faut vraiment que tu respectes des trucs assez précis. Donc j'imagine que des pages mortes qui sont plus là, elles ont plus de SEO en fait. Donc je vois pas comment ça peut arriver.
Elles sont moins bien indexées, mais elles sont toujours là quelque part quoi. À la peut-être 2000e page.
Si le lien est mort.
Est-ce qu'il peut encore
s'afficher ? Techniquement parlant, tu cliques, donc ça arrive sur rien.
Ah oui, d'accord. Dans le cas où il n'y a plus rien, oui.
Je sais pas.
Dans le cas où il n'y a plus rien, forcément, le
site. Il y a un moment où Google va désactiver la page.
Si le site web il est littéralement mort, du coup, on ne retrouvera pas. Si dans le cas où, dans la théorie de l'Internet zombie, en fait, le site est toujours présent, mais en réalité, il n'est plus mis à jour depuis, je sais pas, 20 ans, il n'existe plus, en fait. Il est désindexé. En gros, Google, de toute façon, applique des règles en cas de mise à jour. On le sait très bien, parce que de toute façon, si on ne met pas à jour notre site internet, on n'apparaît pas. Et du coup, juste par rapport à cette règle, de toute façon, le contenu qu'on retrouve, lui, en fait, n'est. Enfin. C'est du contenu qui a été mis à jour régulièrement. Donc en fait, il n'est pas mort. Il existe. À la limite, il y a un sujet autour de plutôt des sites miroirs, parce qu'en fait, comme on sait, c'est qu'il y a des sites qui font des copies d'autres sites internet, notamment ça se fait de plus en plus sur des sites d'actualité. Je sais pas, prenons Le Monde, par exemple, .fr, et il y en a qui vont essayer de répliquer Le Monde.fr, et ils vont modifier des articles à l'intérieur. Mais quoi qu'il arrive, ça demande un gros travail de fond, ça demande un temps d'indexation, parce qu'on sait que Google met du temps à indexer, et le temps que ça remonte dans les premiers résultats, on a le temps. Donc ça peut arriver, mais en vrai, on a moins peur des résultats de recherche de Google que des propositions de liens sur Twitter. Si vous voyez ce que je veux dire.
Ou sur TikTok.
Ou sur TikTok.
Mais si on revient à ce que tu dis, en fait, en gros, c'est faux. C'est pas 50% de Google te propose des sites qui n'existent pas. Ça, c'est faux, parce que Google traite derrière, il y a tout un truc. Par contre, je pense que ce qui est plausible, je veux pas dire vrai, mais plausible, c'est que tout n'est pas fiable.
Non.
C'est à l'intérieur. Ce qui est dedans, même si le site existe, n'est pas forcément fiable.
Oui.
Et ça, malheureusement, Google, il n'y peut pas grand-chose, puisque c'est juste un système de notation pour savoir t'as le droit d'exister, t'as pas le droit d'exister. Mais le contenu en lui-même, ça met du temps avant qu'on le désactive.
Mais il faut c'est ça. Détecter.
Ouais, ça met vachement de temps à être désactivé.
C'est long, ouais.
Je le vois juste par exemple par rapport à Meta, par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis, sur qu'est-ce qu'on censure, ce qu'on censure pas, etc. Tu vois bien que c'est pas du fait de la solution, c'est du fait des personnes qui le conçoivent.
Ouais.
Et donc il y a des trucs qu'on va considérer comme étant pas bien, donc le concepteur va dire ok, ça passe pas. Par contre, ce que toi tu considères pas bien, tu le verras quand même. Par contre, en revanche, ils sont en mesure de désactiver un compte.
Oui,
mais le contenu en lui-même, j'ai l'impression que ça a l'air complexe. De pouvoir dire ce contenu est mauvais, je ne peux pas le publier. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on considère comme mauvais quoi.
Oui, oui, là, sa appréciation et ouais.
C'est plutôt ça qui est complexe, je pense.
Ouais.
Et c'est ultra culturel en plus.
Ouais.
Après, là, ton debug, c'était plus lien mort, non?
C'est est-ce que, en gros, les résultats de recherche sont faux?
Oui.
Est-ce que quand on va sur. On a notre première page internet, ce qu'il nous dit est faux. C'est okay. pas des vraies personnes, c'est pas des vrais sites internet, les liens sont potentiellement morts, etc. Et ça, en l'occurrence, par contre, c'est. Enfin, cette théorie est fausse. Par contre, se pose la question, mais là, on arrive. Bon, on sort un peu du sujet, c'est plutôt la question de la fiabilité de la donnée.
Oui.
Ou là, par contre, oui. C'est, mais ça rejoint encore le point qu'on a évoqué juste avant, de questionner ce qu'on lit, la source de ce qu'on lit, et de se dire, en fait, ce que je suis en train de lire, c'est recoupé avec d'autres informations quand on parle de sujets, par exemple, d'actualité. J'ai envie de vous dire, si vous cherchez un restaurant, bon, dans le pire des cas, le restaurant, finalement, il est fermé, quoi. Enfin, bon, ça arrive. Mais l'adresse est vraiment bonne.
Il y a pas de page. Ce qui est très fréquent à Quimper.
Mais en fonction de vos recherches, en fait, il y a des résultats de recherche. Enfin, si c'est faux, j'ai envie de vous dire, bah, c'est pas grave, vous chercherez ailleurs. Après, c'est plutôt quand on cherche de l'info.
Mmh. Là, il faut quand même.
Ouais. Parce que, et là, c'est plutôt la question là-dessus.
Je rajouterais en plus un cadre rassurant par rapport à ça. Les États-Unis, c'est les États-Unis, mais il faut pas oublier que, en fait, Internet, c'est vraiment culturel et économique. En fait, c'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure de, en fait, c'est pas Internet, c'est pas comme si on construisait une ville, on le voit pas et tout, mais en fait, en vrai, c'est un peu balisé comme un territoire. Et ça fonctionne vraiment comme ça. L'Internet européen, il est pas comme l'Internet chinois, il est pas comme l'Internet américain. On n'a pas les mêmes règles et on a quand même la chance d'avoir l'Internet européen qui est le plus régulé. Et je dirais que même si on a des problématiques vis-à-vis de la désinformation, même si on a des problématiques vis-à-vis du web malveillant, on reste quand même dans un cadre, enfin tu m'arrêtes si je dis des bêtises, parce que c'est vrai que c'est plus ton expertise, Erwan, mais on est quand même dans un cadre un peu plus sécurisant. En fait, déjà, beaucoup de réformes mondiales ont été lancées en Europe, sont parties de l'Europe comme laboratoire, et après se sont déversées dans d'autres pays, notamment sur la désinformation en tout cas. En Europe, on fait partie des pays qui le régulent vraiment et concrètement. Mmh. On a des observatoires qui analysent l'information et qui essaient quand même d'aller dans le sens de protéger les individus. Alors ça marche plus ou moins, mais en tout cas, on a quand même cette dynamique-là comparée à des pays beaucoup plus libéraux que, enfin des États en tout cas beaucoup plus libéraux que nous, où là, en fait, tant que ça fait de l'argent, on s'en fiche. Et c'est vrai que c'est un peu le cas des États-Unis. C'est qu'ils ont un rapport au web où, en fait, c'est vraiment un outil purement capitalistique. Et donc, du coup, on s'en fiche, en fait. Que le contenu soit vrai ou pas, s'il fait de l'argent, il a le droit d'exister. En Europe, on est quand même... On s'attache énormément à la qualité de l'information et à la qualité du web. Et donc, on fait quand même beaucoup plus attention. Et notamment dans le cas de Google, qui doit rendre des comptes. Autant, c'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais ça va être de plus en plus le cas avec l'IA Act, avec le DMA et le DSA, qui sont vraiment des réformes européennes où on considère aujourd'hui que ce qui est interdit dans la vie, maintenant, c'est aussi interdit dans le web. Et donc, sur la question de la fiabilité ou de la véracité d'une information, bah, en fait, aujourd'hui, nos lois, on peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quel cadre, et on n'est pas censé atteindre en fait, la vie des gens de manière malveillante, et donc, en soi, on a une régulation pour ça. On est quand même assez protégé là-dessus. Donc, effectivement, enfin, juste pour en revenir là-dessus... Google dont 50% des liens seraient faux, en Europe impossible.
Ouais.
Peut-être le Google d'ailleurs, mais en Europe c'est impossible.
Oui, et en plus on peut rassurer là-dessus pour conclure sur ce sujet, c'est que avec ce qui se passe aux États-Unis sur l'augmentation des frais de douane, etc. Y a la question de la souveraineté européenne du coup en fait vient se renforcer parce que du coup il y a tellement de choses qui sont en train de se passer qu'on ne peut plus faire confiance. Du coup un allié historique de l'Europe qui fait qu'en fait aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises de la tech européenne qui commencent à parler de souveraineté, de protection, etc. Donc en fait dans les années à venir, en vrai dans le domaine tech ça va beaucoup se développer autour de cette question de la souveraineté. Il y aura des souverainetés par pays, en France par exemple, mais aussi Europe, et du coup ça va forcément venir à l'encontre après des solutions américaines comme Google où on va leur demander plus de comptes, on va plus vérifier ce qu'ils donnent et on va surtout essayer de développer nos propres alternatives. Et ça, on verra un petit peu. Après, Google, c'est vraiment un mastodonte, mais il y aura d'autres sujets sur lesquels on aura du poids par rapport à eux. Quoi. Je vous propose de passer à la rubrique suivante. Le boss fight. Get ready for the next battle. dans le boss fight, je vais vous évoquer des sujets, vous poser des questions, et en gros, vous allez devoir répondre à ces questions. C'est un invité face à un défi.
Ça fait trop peur.
Donc pour ce premier boss fight, en gros, les questions vont être simples, c'est de l'internet zombie ou pas? Et vous allez me dire, mais ouais, ça c'est de l'internet zombie, ça.
Mais on a dit que c'était un complot.
Oui. Mais du coup, on va quand même expliquer pourquoi. Est-ce que c'est oui ou non? Est-ce que
tu vas adhérer?
Ce qui m'intéresse, c'est...
Tu vas rejoindre des cultistes du zombie.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est non ou alors la ligne est fine.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire?
Ok.
Il n'y aura pas de oui, parce qu'on est sur une théorie. Mm. On n'est pas des complotistes. Moi, ma première question, en gros, elle concerne Spotify. En fait, il faut savoir que fin 2024, on a découvert, donc un scandale qui a été révélé sur Spotify, on a découvert que depuis 2016, en fait, Spotify... Oui, depuis 2016. Spotify a créé des faux artistes, du coup avec du faux contenu artistique, donc musical, donc de la fausse musique, qui venait s'incorporer dans nos playlists. Donc les fameuses playlists qu'on suit, qui sont générées parfois de manière aléatoire, potentiellement vos fameux Discovery of the Week.
Non, c'est le lo-fi.
C'est le lo-fi. On dit lo-fi.
Le lo-fi.
Et du coup, moi, ma question par rapport à ce fameux scandale sur ces faux artistes, est-ce que les faux artistes générés par Spotify, c'est de l'internet zombie?
C'est scandaleux. 2016.
La ligne est fine.
La ligne est très fine. La ligne est fine, mais c'est abusé.
Mais c'est quand même un peu les faire
stream, non? C'est pas en fait tout à fait comme les faire stream, parce que pour le coup, j'avais pas mal analysé le sujet, pardon. En fait, c'est beaucoup plus grave que ça.
C'est encore plus faux, quoi.
En fait, c'est encore plus grave que ça. C'est que c'est Spotify qui crée des fiches artistes, qui génère du son avec des intelligences artificielles.
Mais du faux son, quoi.
En fait, non, mais c'est en gros, ils utilisent les bases de son. En fait, on a plein de bases de son qui existent, des voix et tout. Enfin, il y a beaucoup d'outils dans la musique, en fait, où, notamment dans la musique électronique, on peut récupérer un morceau de guitare, et composer de la musique. C'est tout à fait possible. Et ils ont utilisé ça, ils ont créé des fausses fiches d'artistes, des faux titres qu'ils insèrent dans nos playlists pour payer le moins possible les vrais artistes. En fait, c'est surtout ça le problème.
Ah,
c'est que ça a été fait pour... Parce qu'en gros, le stream, ça fonctionne comme une boîte de distribution... Je dis des conneries. Pardon, j'ai dit un gros mot.
Mais...
Je dis des bêtises. Ça fonctionne un peu comme dans une radio. En fait, on a une orientation éditoriale et on va mettre des titres. Et comme on est en France et que nous avons la SACEM, et plein d'autres pays ont un peu ces équivalents-là, on rétribue l'artiste par rapport à l'écoute du titre. Sauf que Spotify, ça les embête de rétribuer les artistes à la hauteur de l'écoute. Et d'année en année, en fait, au début, c'était hyper ouvert et assez lucratif. Et d'année en année, Spotify a rajouté des normes pour... payer de moins en moins les artistes. Au départ, c'était une écoute, de l'argent. Ensuite, ils ont inventé un truc qui s'appelle le taux de complétion. Je n'ai aucune idée de comment on calcule le truc. Quand tu cherches le calcul, tu comprends pas. Mais en tout cas, c'est un truc, c'est plus de l'écoute, c'est un espèce de schmilblick par rapport à l'action de l'utilisateur. Et si le taux est bon, là, tu vas toucher des sous. Et c'était un truc qui venait encore plus compliquer la rentabilité des artistes dessus. Et maintenant, ils rajoutent ça aussi. Ce qui fait qu'en fait, de vrais artistes, avec toutes ces autres règles, doivent aussi concurrencer de la musique générée par algorithme, en fait. Et là, pour le coup, comme c'est des créations de Spotify, et ben en fait, la personne qui va toucher les fonds, c'est Spotify, et pas l'artiste. Et il y a un autre questionnement aussi vis-à-vis de ça, et effectivement, la ligne fine, c'est que comme on utilise des banques de sons, comme tous les outils maintenant utilisent de l'IA, qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui... Et ça, c'est vrai que j'ai pas forcément les infos dessus, mais qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, Spotify n'entraîne pas, en fait, avec ce que les vrais artistes font? Est-ce que Spotify n'est pas en train d'utiliser ce que de vrais artistes font pour générer d'autres sons qui ressemblent à des artistes qu'on connaît et qu'on aime?
Ce qu'on sait possible, parce qu'on a
c'est
vu...
C'est probable.
On a vu avec Monsieur Ghibli qui a été pompé par ChatGPT.
Alors ça...
Mais on en parlera pas.
Hein? Si on parlera d'un truc, c'est qu'il faut que vous sachiez que Miyazaki déteste les IA.
Ouais.
Donc chaque fois que vous utilisez un filtre Ghibli, vous l'insultez. Vous lui faites un gros doigt d'honneur. Et comme d'autres gens disent, sachez que Miyazaki vous souhaite mort. Il l'a littéralement déclaré. Il vous veut mort. Bon, c'est faux. Mais en tout cas, les lignes fines, mais surtout grosse mascarade pour pas payer les gens, et ça c'est très grave.
Et pour se payer eux-mêmes.
Exactement.
C'est encore plus... Enfin, oui, en ça plus, va plus loin, ouais, c'est vraiment se rétribuer eux-mêmes.
C'est donc clair.
Mais oui, un peu zombie quand même.
Ouais.
C'est donc la ligne est fine.
Ligne
est fine.
Mais création humaine.
Il y a toujours les humains derrière. Création
humaine. Zombie, création humaine.
Oui,
ouais.
C'est
ça.
Zombie infecté.
Ligne est fine.
Oui. Zombie infecté.
Infecté.
Infecté
vos zombies.
Infecté. Voilà.
Infecté. Infecté. Et à des buts lucratifs.
En plus, ouais.
C'est uniquement à des buts lucratifs.
Et propriété intellectuelle moyenne.
Oui, mais après c'est le.
Et ils vont être jugés pour ça.
Ah, mais c'est pas illégal.
Non,
parce qu'en fait, c'est considéré comme de la création. En fait, c'est ça le problème.
Aujourd'hui,
c'est tout ça le souci. Aujourd'hui, c'est de la création.
Le seul moyen, parce qu'après, il faut conclure sur cette première question.
Oui.
Mais le seul. Les seuls. Enfin, levier, c'est les artistes qui arrêtent de diffuser sur Spotify. On veut suivre nos artistes, on va sur d'autres, d'autres plateformes. Et après, de notre côté, bah, en fait, de questionner l'usage de Spotify et de se dire, en fait, il y a d'autres plateformes aujourd'hui qui existent. Et pourquoi pas aller dessus. Et de, du coup, se renseigner sur le modèle de rémunération des artistes. Mmh. Aujourd'hui, en fait, concrètement, les artistes passent par des plateformes qui permettent de diffuser leurs morceaux sur toutes les plateformes qui existent. Donc, en fait, quelle que soit la plateforme que vous allez choisir, 90% de chances que votre artiste soit présent. Donc, après, il faut les retrouver, faut refaire les listes. Mais il faut questionner en fait, l'usage de ce type de.
Il faut se poser des questions sur les plateformes qu'on utilise quoi. Et on parle de stream audio mais ça vaut aussi pour le stream visuel c'est, on utilise Netflix, Amazon, machin et en fait si on a envie de respecter la création bah, faut se demander est-ce que la plateforme respecte les gens qu'on écoute.
On dépasse un peu le temps donc du coup je vais passer sur, j'ai deux autres questions quand même. J'ai une question au recrutement, c'est hyper important parce que ça commence à pulluler un peu, on le voit de plus en plus. Est-ce qu'un profil LinkedIn créé de toutes pièces via une IA, parce que ça commence à se faire, on a des faux profils qui commencent à se générer sur LinkedIn et qui prennent contact avec nous parce qu'ils sont là pour nous filer un taf de ouf. Internet zombie ou pas?
Là, en vrai, je sais pas comment ça marche.
C'est un faux profil qui t'écrit pour te proposer quelque chose.
Et pour t'arnaquer. À la fin.
Pour t'arnaquer ou c'est parce que les RH ont la flemme?
Généralement, c'est à but de récupération de données personnelles, ce genre de choses.
Parce que moi, je l'ai vu sur les RH qui ont la flemme.
Ouais,
c'est des... Les pauvres RH qui prennent trop cher sur Internet. Mais c'est plus des recruteurs et recruteuristes qui utilisent les IA génératives pour massivement proposer des offres et échanger avec toi. Et certains peuvent même faire des faux profils. Mais c'est juste pour faciliter le truc en fait, pour faire ça rapidement.
Mais du coup, c'est un chatbot, tu parles.
Ouais, c'est plus un chatbot.
Oui, ils envoient des messages automatiques.
Donc,
voilà.
Donc c'est un bot.
Donc ouais, c'est un bot.
Là, ça fait. Ça fait une fine.
Parce que si c'est un faux profil, c'est qu'ils ont des choses à cacher.
Oui.
Tu parles avec le robot en fait.
Oui, mais du coup, est-ce que si on parle avec un robot, est-ce que vraiment le. Non, on parle d'internet zombie. Donc du fait que c'est un contenu mort, etc. Là, c'est un profil qui vient d'être créé, qui prend contact avec nous pour nous proposer quelque chose.
Bah c'est un bot, du coup.
C'est un bot.
Ouais, c'est ni l'un ni l'autre.
Enfin,
ouais,
mais un bot, c'est pas un zombie.
Ouais.
Oui.
C'est un robot.
Mais en gros, c'est un robot.
Ouais. Oui, c'est
enfin, pour moi, en gros, la réponse pour moi, c'est non.
Ouais, c'est
à la différence de Spotify, depuis 2016, on consomme et on ne le sait pas.
Ouais.
Parce qu'en fait, derrière la théorie du complot, c'est surtout de se dire en fait, qu'on est manipulé par des choses qui ne sont pas.
Ouais,
alors qu'aujourd'hui, des profils LinkedIn qui vous contactent. Et en direct, en fait.
Oui.
Bon, déjà de base, de toute façon, quand on vous contacte en direct, il y a beaucoup de moments où c'est du démarchage, donc de toute façon, on peut le mettre dans la catégorie bot. C'est souvent des copier-coller sur les messages, et on le sait. Et on le fait un peu tous en fonction des sujets. Mais en fait, là, sur ce sujet, j'irais que.
C'est un bot.
C'est un bot.
Ouais.
Et un bot créé récemment, il va disparaître rapidement. Il va pas rester. Parce que LinkedIn n'est pas une plateforme pour ça. Dernière question. Parce qu'on est tous un peu, de temps en temps. Nous-mêmes, nos propres créateurs de démons. Mais un compte inactif depuis 5 ans. Vous voyez vos comptes Facebook que vous avez créés, vous n'avez pas allé dessus depuis un paquet d'années. Hein. Toutes les bêtises que vous avez mis dessus. Hein. Est-ce qu'on a créé notre propre zombie? Est-ce que vous êtes vous-même créatrice
de votre zombie? On
n'est
pas encore
zombie.
On est endormi.
Ouais,
je pense. On s'endort doucement.
Oui.
Zombie, je pense, je vois ça un peu.
Si dans
30 ans c'est toujours pareil, bon, on se zombifie un peu quoi.
Moi je dirais que c'est un zombie si jamais un truc honteux que t'as dit qui est rejeté dans Twitter. Et non, mais oui, continue en fait de se développer et de gangréner d'autres opinions. Là, on a créé notre zombie.
Moi, je dirais que c'est un peu zombie parce que tu sais, le système de Facebook, là, de te rappeler, il y a 10 ans,
il revient
à tes potes et tout. Là.
Ouais.
Ah, là, si, des fois ça fait zombie.
Ou, ou un gentil copain qui va te trouver la première photo de ta mise et qui te tag dessus 10 ans après.
Moi, je crois que c'est un fantôme qui remonte. C'est pas un zombie, c'est un fantôme.
Ouais, c'est pas mal.
Qui revient de temps en temps te hanter en fait.
Ressurgit du passé.
Ouais, le mot hanter est bien choisi.
Oui.
Le mot hanter est bien choisi. Mais du coup, oui, non, c'est pas un zombie.
C'est un fantôme.
Par contre, on se pose la question si dans 30 ans c'est toujours présent. Et je dirais même qu'on a oublié qu'il était présent et que...
Et qu'il revient.
Et qu'en fait, bah, du coup, via une faille de sécurité, notre compte a été piraté par une IA qui du coup s'amuse à le faire bouger et à dire des bêtises, mais en notre nom, est-ce que là, on sera un peu limite?
Mais l'IA, elle sera toujours codée par quelqu'un.
Non, mais voilà, tu peux pas être piraté par une IA. Tu ne peux pas.
Non, tu seras victime d'un nécromancien, mais toujours pas zombie.
Ah, mais toujours pas. Donc non, ce n'est pas. En tout cas, j'avais noté, c'est non, ce n'est pas un zombie. J'aimerais juste conclure sur ce boss fight, parce qu'on a donné beaucoup de cas, beaucoup d'exemples, on est parti même sur des sujets qui sortent un peu de l'internet zombie à certains moments, mais juste pour conclure, parce que là, ça fait trois questions, mais en fait, on peut sortir ces questions sur plein d'autres sujets, sur un faux commentaire sur un article, un produit, sur un e-commerce, est-ce que c'est, enfin, quand il y a depuis 10 ans, qu'est-ce que c'est ? Les fameux tweets générés par IA qui ont, enfin, que en fait aujourd'hui 50% des contenus qu'Elon Musk produit et qui sont repartagés, c'est plus de 50%, c'est de l'IA et c'est lui-même qui les a intégrés. Enfin, on est sur ce manipulation de masse. Mais en fait, il y a plein de cas d'exemples comme ça aujourd'hui. Mais concrètement, si on doit aider un peu les auditeurs, c'est quoi est-ce qu'il y a des cas pratiques qu'on peut quand même citer pour à chaque fois se dire est-ce que c'est du zombie, est-ce que c'est de l'humain? Est-ce que vous avez des choses?
Moi, je reviendrai juste sur un truc, c'est que je pense que ce ne sont pas des zombies. C'est si on doit revenir vraiment sur ce truc de la théorie de l'internet zombie, ça n'existe pas. Il faut vraiment juste se dire contenu vivant ou mort. Donc est-ce que, en fait, on a beaucoup parlé de mise à jour finalement. Est-ce que c'est un contenu à jour ou pas? Et ensuite, il y a une deuxième question, c'est est-ce que c'est un contenu fiable ou pas? Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Juste ça. Ce site sur lequel je vais, un article sur lequel je tombe que ChatGPT m'a généré. Si je vois la source, c'est qu'en fait, c'est un topito de 2014. Bon, pas à jour. Pas forcément. C'est pas forcément une information que je dois utiliser. Et après, il y a l'aspect image, vidéo, etc. C'est de toujours se poser la question de... Bah, en fait, ce que je vois là, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est fiable ou pas? Est-ce que si je le répète à quelqu'un, est-ce que je suis pas en train de diffuser une bêtise, quoi? Et est-ce que, en fait, la source que je lis, elle est officielle, elle est fiable? C'est sourcé, enquêté.
Surtout que sur la question de la fiabilité, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus aller très loin, comme tu dis, de regarder un peu la date de l'article. Quand il n'y a pas de date, ça peut aussi questionner. Donc
quand il n'y a personne d'identifié derrière.
Oui.
Il n'y a pas de journaliste.
Il n'y a pas de journaliste.
C'est juste un truc comme ça.
Le site sur lequel on le retrouve, est-ce que c'est un tweet sur X ou alors est-ce que c'est une vidéo TikTok sur une personne qui n'est pas reconnue? Ou alors au contraire, c'est sur un site officiel, etc., avec un journaliste. Donc, en gros, il faut questionner, en fait, cette source. Mais juste avec quelques points, très rapidement, on peut identifier si c'est du vrai ou pas.
Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très visible facilement. Enfin, on peut rapidement vérifier. Mais là où c'est un peu plus insidieux, je pense, c'est les personnes qui se questionnent, de questionner aussi de quoi est fait leur algorithme, qu'est-ce qui le nourrit. Qu'est-ce qui leur est poussé dans les interactions que les utilisateurs peuvent avoir, je sais pas moi, avec un service commercial en ligne ou je ne sais quelle autre interaction, juste d'être attentif à des comportements qui pourraient aujourd'hui être un peu bizarres, où on peut se faire avoir, parce qu'on dit toujours que c'est les autres, que ça n'arrive qu'aux autres, mais au final, ça a été prouvé là, avec plein d'histoires récemment. Avec Brad Pitt, mais avec plein d'autres cas dans l'actualité où les gens qui ne sont pas très bien informés peuvent rapidement se faire avoir. Et notamment dans les manipulations de masse où ça touche quand même des campagnes électorales, mais aussi les JO. Enfin, il y a vraiment beaucoup de cas d'actualité récents où on peut facilement aussi avoir du faux, enfin toucher du faux, faux contenu sans le savoir, ou qu'on essaie de nous convaincre. Tu parlais de ça tout au début. Où on entend parler de quelque chose, du coup ça nous convainc que effectivement ça existe. Enfin, juste, je pense, faire attention à ça et déployer de plus en plus de prévention. Ça, c'est plus les pouvoirs publics ou les associations, mais voilà.
Et est-ce que nous, on est responsables? Parce que je pense que des fois, c'est la question qu'on se pose, nous, en tant que concepteurs, parce qu'on est quand même développeurs de solutions.
Tout à fait, oui.
Est-ce que nous, on pourrait jouer sur ça, en fait, de contourner un peu cet algo parfois malveillant, ou est-ce qu'il y a des choses à notre échelle qu'on peut mettre en place, sans forcément que les gens le voient, hein, sans forcément, parce que la sensibilisation, ça prend du temps, mais est-ce que vous, à votre échelle, il y a des... Il y a des manières de coder ou des manières de faire qui peuvent déjouer. Est-ce que vous êtes des Anonymous?
Ça dépend quel projet, sur quel projet on travaille, quoi. J'imagine que si un jour se présente la création d'un algorithme, oui, là, c'est en fait tout le travail de conception.
Ça aide beaucoup, comme tu le dis, lié au projet. Parce qu'après, on travaille. Enfin, nous, on travaille beaucoup sur des outils professionnels, donc on est moins dans les sujets de communication. Par contre, demain, on est amené à travailler sur un projet autour de la mise en place, je sais pas, d'un outil de communication globale, de mandaté par, je sais pas, une grosse entreprise, une région, je ne sais quoi. Peut-être que là, du coup, c'est plutôt à nous, par contre, de questionner les objectifs de cet outil, comment il va être utilisé, à quelle fin. De manière à ce que, du coup, dans notre développement, en fait, on puisse mettre des barrières peut-être sur certains sujets.
Il y a des verrous que vous pouvez mettre pour éviter ce genre de truc.
Bah, techniquement parlant, moi je dirais, à part mettre une notification, méfiez-vous, c'est du contenu que n'importe qui peut créer, enfin peut modifier. Ou je sais pas s'il existe des interconnexions avec des outils qui vérifient si c'est de l'IA ou si c'est, enfin bref. Mais en soi, si tu fais un Facebook like, par exemple, où les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans, bah, en fait, c'est le sens critique, quoi, qu'il faut faire appel à ça. Donc, prévenir les gens en amont, bah, attention, là, vous arrivez dans un réseau social. le seul truc que vous pouvez faire, c'est vous poser la question.
Et après, là-dessus, il y a peut-être des outils aussi qu'on peut greffer. Je pense à Twitch, par exemple, où il y a des outils qui combattent le cyberharcèlement, notamment au niveau des streameuses, et ou des personnes engagées politiquement. Et notamment, généralement, ceux qui se font harceler, qui sont engagés politiquement, sont souvent d'un meilleur bord que les autres. Et du coup, il y a des outils qui permettent de finalement filtrer ces personnes. Donc je me dis que ces filtres, on peut aussi les appliquer sur du contenu. Donc il y a peut-être des choses aussi qui seront à creuser si un jour on est, par exemple, nous amenés à travailler sur ce genre de sujet.
Oui, mais rien qui peut vraiment être dans le...
Y a pas
qui
de...
peut impacter le web.
Non.
T'as pas un truc...
Ouais. Non.
T'as pas la solution ultime, quoi.
Non.
Et il y a Facebook qui peut faire ça dans les news positives par rapport à... aux IA, t'as Facebook qui veut... Et sur Insta, je crois aussi, ils veulent faire une petite étiquette pour dire attention, c'est un contenu généré par IA.
Mais c'est obligatoire. C'est au-delà de ce qu'ils veulent, c'est l'IA Act qui l'impose.
C'est une obligation légale.
C'est une obligation légale.
Écoute, ils ont dit qu'ils avaient.
Oui,
bah oui,
c'est
parce qu'ils n'ont
pas le choix. Là, on...
C'est une bonne nouvelle. C'est normal, ils sont
obligés. Là, c'est un sujet de sensibilisation. C'est qu'il faut faire attention entre la démagogie des entreprises qui te disent nous allons faire ça. C'est comme Burger King qui d'un coup font du green incroyable. Mais en fait, il y a une loi qui vient de passer, t'as pas le choix. Et ils ont été repris sur leur pub. Je sais plus, c'était début 2024.
Oui, oui, quand ils ont dit oui, on a mis de la vaisselle réutilisable parce qu'on est green, et en gros il y a des organisations qui font tatata, non c'est l'Europe qui vous l'oblige,
voilà.
Donc faites pas exprès. Et dans le cas de Meta, c'est pas une avancée, c'est l'IA Act qui l'oblige. Maintenant toute personne qui génère un contenu IA doit l'écrire, doit le dire, que cette image elle est même trafiquée d'ailleurs, même si tu la retravailles derrière, tu dois dire que ta base de travail venait de ça.
Après,
tant mieux,
c'est bien, t'auras l'étiquette qui te dira quand c'est pas vrai.
Oui.
Mais t'auras peut-être une étiquette, ça sera peut-être pas forcément mise sur tous les trucs qui sont pas vrais.
Donc,
Bah, faut qu'on ait du recul là-dessus,
c'est
sûr.
C'est impossible.
Ah, c'est clair.
Mais du coup, je pense que ça rejoint quand même un point pour conclure là-dessus. C'est qu'on est quand même sur un sujet de sensibilisation. Et de savoir, en gros, je pense que les premières actions qu'on peut faire nous de notre côté, de toute façon, c'est sensibiliser. Donc même quand on travaille sur ce type de projet, c'est de sensibiliser sur qu'est-ce que c'est, comment on va le faire, à quoi ça va servir. N'hésitez pas à nous poser des questions. En gros, je pense que c'est hyper important d'ouvrir le dialogue, ce qui aujourd'hui en fait est très compliqué, parce qu'on vit de plus en plus dans un monde où le dialogue est de moins en moins ouvert. Et je pense qu'au contraire, en fait, pour combattre ce genre de sujet, il faut l'ouvrir, inviter des gens à poser des questions, même les plus bêtes possibles, parce que c'est aussi notre rôle de vulgariser ce qu'on fait, d'arrêter d'utiliser le terme algorithme, mais peut-être d'utiliser des termes beaucoup plus simples et accessibles pour des personnes qui ne comprennent même pas ce que c'est un algo. Et en vrai, c'est la majorité des gens et c'est normal. Enfin, personne ne sait à quoi ça ressemble.
Mais en fait, je me dis, sans même en fait, prendre les gens pour des idiots, c'est que parfois, juste prendre le temps en utilisant le mot algo, parce que ça s'appelle un algo. En revanche, prenons plutôt l'habitude d'expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait. Ouais. En fait, dans ce que tu disais, c'est vrai que je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a l'aspect esprit critique, mais ça, c'est dans ce qu'on voit. Mais dans tout ce qu'on voit pas, je pense qu'effectivement, c'est plus qu'on apprenne. Un site internet, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Une image, c'est quoi? Enfin, peut-être. Une image, c'est quoi? Ça se génère comment? Une appli, ça fonctionne comment? Peut-être de plus prendre l'habitude, en tout cas nous, en tant que concepteurs, d'expliquer aux gens ce qu'ils ont sous les yeux, comment ça fonctionne. Je vous dis, c'est comme une voiture. L'un des principaux problèmes qu'on a, c'est parce qu'on sait pas c'est quoi une batterie, où est-ce qu'elle est, ce qu'elle fait et tout. Et une fois qu'on maîtrise ça, quand on sait comment ça se compose, peut-être qu'on est plus à l'aise de savoir quand on se fait arnaquer ou pas.
Mais clairement, on est les premiers.
Même quand tu sais, c'est compliqué.
Ouais,
c'est difficile.
Oh, mais je pense qu'il faut pas. Peut-être que parfois on abandonne trop vite.
Oui.
Faut peut-être se dire que c'est un process long. Faut pas lâcher l'affaire.
Faut être motivé.
Exactement. Et puis en fait, en vrai, ça a des effets. Juste que personne viendra nous dire merci grâce à vous. En fait, ils le font, c'est tout. Je pense qu'il faut pas qu'on attende non plus d'avoir un résultat flagrant.
Non, et puis la reconnaissance, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, on fait ça parce qu'on aime notre taf. Et après, on est en première ligne par rapport à ces sujets. Donc, c'est nous les premiers à véhiculer toutes ces bonnes pratiques et autres. Et on n'a pas à attendre de nous dire merci. Enfin, c'est pour moi un acte normal. Donc, il faut rester dans cette logique-là. Je vous propose de passer sur la dernière rubrique, qui est très rapide celle-ci, qui s'appelle Side Quests. Dans cette rubrique, nous allons sortir un peu du sujet Internet Zombie, c'est un peu plus global, on va surtout parler de quelles sont vos recommandations du moment sur d'autres podcasts, sur des livres, sur des sites internet, sur des jeux vidéo, ce que vous voulez. Mais du coup, toujours dans une logique un peu de s'éveiller à ce qui est l'informatique, ce qu'on peut y apprendre. Et donc du coup, chacune d'entre vous, est-ce que vous pourriez partager votre sujet du moment, votre recommandation du moment?
Moi, c'est quand même par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui, pas directement Internet Zombie, mais des ressources que je trouvais intéressantes. Pour les femmes dans la tech, il y a l'association Social Builder qui propose des formations qualifiantes à des femmes pour qu'elles puissent travailler dans le domaine de la tech, que je trouvais pas mal. C'était dans le cadre de mes recherches sur les biais qu'on peut retrouver dans les IA, notamment les biais sexistes, racistes, etc. Et par rapport à ça, il y a une autre ressource qui est a priori disponible sur Netflix qui s'appelle Coded BS. Donc les
bias.
Sorry for my English. les biais du code qui parlent des algorithmes du coup et de la discrimination qui peut en découler et qui a l'air très intéressant. Donc, je l'ai pas vu non plus mais je me suis notée de le regarder. Voilà, parce que dans mes recherches j'ai vu qu'il y avait pas mal d'outils utilisant l'IA qui sans le vouloir, représentait par exemple beaucoup trop de discrimination, que ce soit sexiste, raciste. Donc intéressant, je pense, pour prendre du recul, on parlait d'esprit critique.
Florence.
Moi, je vais recommander une petite vidéo que j'ai trouvée super intéressante. C'est plus pour comprendre comment fonctionnent les IA style, enfin les chatbots plutôt, style ChatGPT. Pour comprendre un peu comment ils fonctionnent. Faut s'accrocher un petit peu. Mais ils expliquent quand même plutôt pas mal. C'est sur le compte YouTube de Devox France. Donc ça s'écrit D-E-V-O-2-X France. Donc c'est une des plus, enfin je crois que c'est la plus importante conférence technologique française qui se passe au Palais des Congrès à Paris. Et du coup, la vidéo, c'est comment ça marche l'IA générative. LLM, RAG sous le capot. Et enfin, j'ai trouvé ça incroyable. En gros, ils expliquent comment fonctionne un modèle de langage, quoi. Et même comment il arrive à générer des images.
Okay.
C'est un truc de fou, comment ils ont réussi à leur apprendre à faire ça. Et sinon, pour aller plus loin sur le thème de l'internet zombie et comment réussir à détecter un petit peu une intelligence artificielle, il y a le test de Turing en live. Donc c'est... J'ai pas l'adresse.
Alors pour les adresses,
hyper complexe.
On va pas, on les mettra en lien dans le dans le podcast. Je l'ai pas indiqué, mais on a besoin de sortir l'URL.
En gros, c'est juste un petit site web sur lequel on lance un jeu, et en fait il tourne, il mouline un peu pour nous trouver une personne avec qui discuter en anglais, parce que du coup ça intéresse tout le monde, on va dire. Et du coup, on discute pendant, je crois qu'il nous laisse 2 minutes pour échanger avec quelqu'un. Et à la fin, on doit dire si c'était une IA ou si c'était un humain. Mmh. Voilà. Hyper. Et on peut se tester comme ça. C'est hyper marrant à faire.
Mmh. Fen?
Non, j'étais en train de rechercher pour pas dire de bêtises. C'est un podcast sur... L'esprit critique, en fait, enfin, je le recommande à toute personne qui se dit qu'il n'y a que les idiots en fait, qui tombent dans des complots, toutes sortes de croyances, etc. Metal Shock, en fait, c'est un podcast de... Je retrouve son nom. Elisabeth Fetti, sociologue, chercheuse, autrice, sur ce qu'on appelle la métacognition, en fait. C'est l'analyse de la pensée et de comment elle fonctionne. Et en gros, elle a questionné l'embrigadement, mais tout type d'embrigadement. C'est comment on tombe dans les dérives de la femme sacrée, la méditation, les algorithmes. Et en fait, à chaque fois, elle fait intervenir des experts ou des victimes, en fait, de manipulation. C'est un peu au format striptease de l'émission qu'on avait quand on était petit. Genre sans jugement, les personnes, elles parlent et elles racontent leur vie. Et en fait, c'est ouf parce qu'on voit comment est-ce que très facilement on peut tomber dans une croyance. Et après, bah, en fait, forcément, c'est des histoires de personnes. Si les personnes viennent témoigner, c'est qu'elles s'en sont sorties. Donc on voit aussi comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et elle met plein de petites alertes sur comment on fait pour pas tomber dans toutes sortes de dérives sectaires ou manipulatoires.
Merci pour tous ces échanges, parce que c'est extrêmement intéressant. On mettra, comme je le disais, tous les liens vers les différentes recommandations directement dans le podcast. Alors, quand tu disais striptease, notre âge, du coup, on est des trentenaires, donc vous voyez ça à la fin des années 90, début des années 2000.
C'était en couleur.
Pour les personnes qui nous écoutent, ça donne à peu près une idée de quand est-ce que vient cette source.
Bah, je recommande striptease aussi, si vous trouvez des archives, super émission.
Je vous propose de conclure sur ce premier podcast. Alors déjà, c'était hyper intéressant, notamment déjà pour l'exercice, parce que c'est la première fois que des informaticiennes du coup viennent au micro comme ça dans l'agence, en tout cas, hein, on n'a pas l'habitude.
Et encore, on a triché, on fait pas de live comme ça, on n'a pas on n'a pas à échanger avec des gens en direct.
J'aimerais quand même conclure sur l'internet zombie. Donc non, l'internet zombie n'existe pas. On est bien sur une théorie de complot, on est sur une logique de manipulation, à des fins financières, à des fins de manipulation, bah, du coup d'ordre électoral par exemple. Donc il y a plein de sujets. Est-ce que demain on naviguera sur des sites où seuls des zombies seront présents? Ça, il y a peut-être peu de chance, on le découvrira d'ici un paquet d'années. Quoi qu'il arrive, en fait, on peut garder quand même bon espoir, parce qu'en tant qu'humain, bah, en fait, on se rapproche quand même de nos semblables, et à un moment donné, on en aura marre de discuter avec des robots en permanence, c'est des sortes de zombies qui traîneront sur plein de sites internet, on n'ira pas sur ces sites, concrètement. Et ceux qui iront, c'est parce que déjà ils se complaient de base sur ces sites, donc on va pas les suivre. Donc en gros, on va juste choisir, en fait, là où on va. Donc oui, peut-être que 90% de l'internet demain sera mort, mais nous, on sera sur les 10% restants, donc tout va bien. Et petit mot de la fin pour les invités. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez rajouter sur ce premier podcast et sur ce sujet qui est l'Internet zombie?
Bah moi, c'est un peu en lien avec ce que tu viens de dire. En fait, c'est que Internet, c'est ce qu'on en fait. Ça se dresse, en fait. C'est un outil. Donc, on a plein... En fait, on est un peu passif, en fait, vis-à-vis de Internet. On prend les contenus tels qu'ils sont et on oublie qu'on peut les filtrer, on peut les configurer, on peut, en fait, cadrer notre information et décider qu'est-ce qu'on veut voir à quel moment. Après, il y a peut-être un biais là-dessus, c'est qu'on risque l'entre-soi. Mais en tout cas, c'est que s'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, Internet ne le force jamais. On a la possibilité de dire « je veux pas voir ça ». Et c'est pas compliqué. Peut-être que ça s'apprend, effectivement, vu qu'on parlait de sensibilisation et tout ça, mais on peut tout à fait façonner Internet comme on a envie. Et en fait, faut pas oublier surtout qu'il y a plein d'Internet. Donc s'il y en a un qui nous convient pas, en fait, il y a plein d'autres endroits incroyables où on peut trouver d'autres informations, avec de l'échange. Et je pense que ce qu'on perd aujourd'hui, c'est peut-être la recherche. Peut-être que c'est ça qui va nous aider. Et ça s'est passé pour plein de médias, plein d'évolutions de médias. C'est qu'en gros, on n'était pas satisfait de quelque chose. On n'était pas satisfait de la télé parce qu'il y avait trop de pubs. On n'était pas satisfait du milieu du disque parce que la FNAC organise les rayons n'importe comment. Et du coup, on est parti vers autre chose. Et on est parti vers des alternatives qui ont mené à des choses hyper cool. Et en gros, en continuant à rester curieux, en continuant à chercher des alternatives en ligne, hors ligne, en fait, on continue de se nourrir de bonnes informations fiables et on contrecarre aussi le jeu de l'algorithme.
Bon, moi, si j'ai un mot de la fin à dire, c'est que c'était une expérience intéressante et que j'ai appris plein de trucs durant ce podcast.
Et moi je voulais vous remercier tous parce que j'ai passé un très bon moment et vivement le prochain épisode.
Très bonne transition. Donc n'oubliez pas, on peut faire du gentil zombie et en gros c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Pour le mot de la fin, en fait je vais inviter toutes les personnes qui ont écouté ce premier podcast à le liker, s'abonner, commenter, laisser un avis, qu'il soit positif ou négatif, mais on est là pour apprendre et pour s'améliorer aussi. Donc on est preneur aussi de vos retours sur quelle que soit la manière dont vous voulez nous le partager. On travaille déjà sur un prochain podcast en plus d'un événement un peu particulier, mais ça vous le découvrirez au moment où il sortira, je ne m'engage pas. Et du coup je tiens en fait à tous vous remercier, vous êtes tous hyper cool. Donc à tôt au prochain podcast.